Saluton.
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 Saluton. Saluton.
Saluton al ciuj. Bonjour à tous. Après Guy Camille la semaine dernière, et toujours à propos de la pétition L'Espéranto au bac, je vous propose d'écouter aujourd'hui une autre personne très motivée. Corinne Daudier a obtenu à elle seule 1200 signatures de cette pétition dans sa ville de Montpellier. Quel est donc son secret ? Saluton Corinne.
Saluton.
Je crois que c'est toi la record woman des signatures pour l'instant, d'après Guy.
Ben, il paraît, oui.
Voilà. Alors, je vais te demander ton secret, en fait, ta méthode. Hein, comment as-tu réussi à obtenir 1200 signatures à toi toute seule ?
Ben, en fait, je pense que c'est grâce à Guy, parce que c'est lui qui a réussi à me forcer un petit peu la main au départ, parce que je lui ai dit « Oh, je vais prendre une seule feuille, parce que tu sais, c'est pas facile de trouver des gens qui veulent signer ». Et puis là, il m'a dit « Mais tu sais, finalement, il faut essayer. Et puis si tu essayes, tu vas y arriver. » Et voilà, donc j'ai essayé et finalement, ça marchait.
Alors, où as-tu opéré, si j'ose dire ?
Alors, j'ai commencé sur mon lieu de travail. Je suis enseignante dans BTS. Et sur le campus, il y a plusieurs pôles. Et donc je suis allée dans les jardins du campus et j'ai retrouvé d'anciens étudiants à moi. Et je leur ai dit, ben voilà, j'ai une pétition pour l'espéranto, est-ce que vous voudriez bien signer ? Et là ils m'ont dit, ah oui, on se souvient une fois, vous nous aviez parlé d'espéranto. Donc voilà, puis finalement ils ont signé peut-être pour me faire plaisir un petit peu, oui.
Oui, pourquoi pas ?
Oui, oui, c'est très bien. Ça prouvait qu'ils avaient un peu confiance en moi.
D'accord. Et ta méthode donc envers les inconnus ?
Ah oui, alors donc après je me suis dit ben voilà, ça marche. Donc comme Guy il a dit qu'il fallait le faire, donc je vais y aller. Et j'ai essayé ailleurs et j'ai vu que ailleurs aussi ça pouvait marcher. Et j'étais très étonnée en fait que ça marche parce que souvent, on essaye auprès de sa propre famille et c'est pas finalement le milieu qui est le plus
réceptif.
Plus réceptif, oui. Oui.
Et concrètement, donc tu arrives avec ta pile de pétitions.
Ah oui, alors là, oui, je m'étais fait une petite méthode. Alors je m'étais dit bon, il y a la feuille de pétition, donc c'est un format A4. Et là, pour pouvoir signer, il faut qu'on ait un support. Et alors, j'ai un peu cherché à la maison si j'avais des petits cartons, des choses comme ça. Puis tout d'un coup, j'ai pensé à la BD. J'avais une BD, puis je me suis dit, ce serait vraiment dommage de ne pas prendre une BD en espéranto. Donc, j'ai décidé de chercher les BD en espéranto que j'avais à la maison. Et j'ai pris celle qui me paraissait la plus montrer le fait de l'ouverture à une autre culture ou à les liens d'amitié entre les personnes, puisque quand même l'espéranto, ça cherche à faire un petit peu ça. Et donc j'ai trouvé Tintin au Tibet, traduit en espéranto. Et donc ça me paraissait bien. Et puis je venais d'acheter une autre BD qui était sur la grotte de Lascaux. Et alors je me suis dit que ça serait intéressant aussi de montrer qu'on peut valoriser un patrimoine culturel grâce à l'espéranto vers les autres pays. Donc j'ai à la fois montré Tintin au Tibet et la BD sur la grotte de Lascaux.
Le secret des bois de Lascaux. Alors, oui. Alors rassure-toi, hein, nous avions décidé l'interview avant de connaître ce détail, mais évidemment, cela ne peut que nous toucher en Dordogne que le secret des bois de Lascaux fasse partie de ton choix.
Oui, oui. Et donc j'aimais bien le montrer parce que je trouvais que c'était intéressant pour les Français de bien comprendre qu'on pouvait valoriser quelque chose de très local,
oui,
auprès du monde entier, voilà, sans passer toujours par l'anglais.
Et s'il fallait donner un conseil pour vraiment stimuler nos amis espérantistes, pour qu'ils suivent ton exemple, parce que finalement, les gens ont réagi de manière très hétérogène. Il y a, la plupart des espérantistes ont signé, mais ils n'ont parfois renvoyé qu'une seule signature, la leur. Alors,
oui.
comment encourager tout le monde? Parce qu'il reste encore plusieurs mois. Nous sommes en avril 2012 et la pétition court jusqu'à fin septembre 2012.
Alors, je peux pas dire... Moi, je pense que c'est important d'aller directement voir les personnes et montrer ce que l'on doit faire signer en disant, voilà, je viens pour une pétition pour que l'espéranto soit au baccalauréat. Directement, pas essayer de contourner la chose, être le plus direct possible.
D'accord.
Puis ensuite, les personnes peuvent demander... Mais qu'est-ce que c'est que l'espéranto? Parce que la plupart des personnes, je dirais 8 sur 10, ne savent pas ce qu'est l'espéranto. Donc là, il faut avoir un petit argumentaire qui explique un petit peu ce qu'est l'espéranto, que c'est une langue internationale, qu'elle est beaucoup plus facile à apprendre que les autres et qu'elle permet très rapidement d'avoir un contact avec des personnes qui ne sont pas de sa propre langue, de sa propre culture, parce qu'elle... Elle a un côté très naturel dans sa façon d'être construite.
Donc cette pétition, c'est aussi l'occasion de faire parler de l'espéranto, de parler de la langue que nous aimons utiliser.
Oui, oui. Ça, c'est un point très important, je crois, parce que ça m'a aussi aidée à avoir autant de signatures, parce que comme finalement pour moi, ce n'était pas très important d'avoir ou de ne pas avoir les signatures, mais plutôt important de parler de l'espéranto, je ne forçais pas les gens.
D'accord.
Je ne cherchais pas forcément cette signature. Donc effectivement, quand les personnes pensent qu'on ne cherche pas forcément à attirer quelque chose d'eux, ils sont beaucoup plus réceptifs. Et plusieurs fois, à des personnes qui étaient réticentes au début de signer, qui m'ont quand même posé des questions sur l'espéranto, après avoir donné une explication, j'avais plus ou moins retiré la pétition de devant leurs yeux,
oui,
en montrant autre chose. Et du coup, ils m'ont redemandé eux-mêmes la pétition pour la signer.
C'est très positif, ouais.
Oui. Oui, oui. Voilà. Donc, on faisait d'une pierre deux coups.
Ça me paraît une très bonne conclusion sur le sujet. Alors maintenant, est-ce que tu veux te présenter? Donc tu habites Montpellier ou tu travailles à Montpellier? Et peut-être comment as-tu toi-même découvert l'espéranto et quels sont tes projets dans ce domaine?
Ah oui, alors c'est très amusant. Ma rencontre avec l'espéranto est en fait une rencontre qui est liée à la famille de mon mari. Mes enfants jouant dans un grenier dans la maison familiale ont trouvé un petit livre de l'espéranto en 10 leçons, je crois, de leur arrière-arrière-grand-père, Théophile Carr, qui était un très grand défenseur de l'espéranto. C'est lui qui a promu l'espéranto en France au tout début où il est arrivé. Et c'est lui qui combattait pour maintenir la langue dans un cadre fixe qui était donné au départ, qui était la Fundamento. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent un petit peu la Fundamento.
Le livre, on en a parlé plusieurs fois à l'occasion dans l'émission. Donc le fameux livre de Zamenhof où il a
donné les premières règles, voilà, qui faisaient que
en vocabulaire et en grammaire.
En vocabulaire et en grammaire, qui donnait le premier cadre.
D'accord.
De cette langue. Voilà, parce que quelques années plus tard, il y a eu des personnes qui disaient qu'il fallait un peu modifier ce cadre parce qu'il ne correspondait pas vraiment à certaines possibilités d'utilisation. Et lui, il a été une des personnes qui a souhaité maintenir le fundamento pour justement permettre peut-être plus tard de faire des modifications, mais en tout cas, dans un premier temps, de garder un cap.
Alors, on viendra peut-être sur Théophile Carr tout à l'heure,
oui,
parce que il est né, je crois, en Dordogne.
Ah, c'est possible.
Oui, oui. Alors, j'ai oublié le village, mais certains dans le groupe
oui,
le connaissent très bien.
Oui, c'est étonnant, c'est drôle,
voilà.
Oui.
Donc, c'est la famille de ton mari.
Voilà, c'est ça.
Alors,
oui,
sur le plan personnel...
C'était le grand-père de sa mère.
Donc, sur le plan... On y reviendra, hein, si on a le temps tout à l'heure dans l'émission.
Oui.
Sur le plan personnel, donc, la découverte, c'est tes enfants qui ont souhaité apprendre ou en savoir plus sur l'espéranto.
Oui, oui. Disons, ils ont trouvé ça dans un grenier. Moi, je ne connaissais pas du tout cette histoire. Et ils voulaient, en fait, ils ont trouvé ça marrant. Ils en ont parlé à leur grand-mère. Elle a dit que c'était une langue qui avait, sur laquelle avait travaillé son grand-père. Et ils ont dit, ah, c'est super, on va pouvoir l'apprendre. Comme ça, on pourra parler entre nous en cachette et les grands ne pourront pas comprendre ce qu'on dit. Voilà. Donc, en fait, ils ont commencé à faire les premières leçons. Et puis, ils avaient 7-8 ans. Donc, du coup, ils n'ont pas continué.
C'était en quelle année ?
C'était entre cousins. Oh, je ne sais pas. C'était
avant 98, avant le congrès universel de Montpellier ?
Je dirais à peu près à la même époque.
D'accord.
Parce que quand le congrès a eu lieu à Montpellier, je me souviens que ça m'avait déjà intriguée et je connaissais déjà l'espéranto. Donc c'était certainement avant.
Tu as participé à ce congrès ?
Pas du tout.
Moi non plus, je n'étais pas encore espérantiste à ce moment-là.
Voilà,
donc ma découverte est beaucoup plus récente en fait.
Oui. Sachant que cette langue existait, quand j'ai vu qu'il y avait ce congrès d'espéranto, une ou deux fois en ville, j'ai discuté avec des personnes, j'aurais dit, alors vraiment, vous parlez espéranto, est-ce que vous pouvez me dire quelques mots ? Enfin, juste une première introduction comme ça.
Et sur le plan personnel, donc tes projets ?
Alors, mes projets, là je suis en train donc de faire un stage d'espéranto pour pouvoir passer le deuxième niveau B par rapport au cadre européen des langues.
Merci Corinne. J'espère que ton exemple en entraînera d'autres, car la pétition court encore jusqu'à fin septembre.
Pari por okazi, esti au ne, pari cion okazi, esti au ne, pari por okazi, esti au ne, pari cion okazi, alveni estonte, forte kai pove, foriri el nun, kiel venculo, alveni estonte, forte kai pove, foriri el nun, kiel venculo. Stonoi post truoi, truoi post stonoi, vengu obstacloin, verda soldato. Stonoi post truoi, truoi post stonoi, vengu obstacloin, verda soldato. Neniam resignu, de vera milito, estos recompenso, el granda valoro. Neniam resignu, de vera milito, estos recompenso, el granda valoro.
Le groupe brésilien Merlin vous chantait « Verda Soldato », le soldat vert. Martine nous a rejoint pour le sketch d'aujourd'hui.
La titolo de la sketcho estas « Crimo ne occasis ». Vi, Martine, vi estas maljunulino, kai mi estas raportisto.
Yes.
Kai mi interviewas vin sur benko en parko.
Yes.
Mi estas raportisto de la matena giornalo. Kiom da jaroj vi havas?
Nur 19. Post 3 monatoj mi havos 19 jarojn.
La giornalisto skribas. Ĉu vi estas la sola 19 jarulino en la vilaĝo?
Yes, mia patro mortis kiam li estis 100 jara kaj mia avo mortis kiam li havis 106 jarojn. Mi estas nur junulino.
Kion vi faras dum la tago?
Mi ofte sidas ĉi tie en la parko, kaj mi multe marŝas kun mia hundo. Ni ambaŭ amas marŝi, kvankam li estas nun iom lama. Ankaŭ li estas maljuna.
Vi legas, kompreneble.
Ho, oh, yes, mi legas kun la helpo de okul vitroi. Mi legas nur scienzain verkoin.
Nur scienzain verkoin? Ĉu vi ne legas krim romanoin?
Mi ne havas tempon. Nia policano tie, trans la florbedo, inter la arboj, amas krim romanoin.
Kion li faras tie? Li serĉas longan tempon.
Li estas nova policano. Mi konis lian avon. Li mortis en kompare juna aĝo. Li havis nur 73, kiam li forpasis.
La raportisto ankoraŭ rigardas. Li tre diligente serĉas.
Li estas tre diligenta. Ni vizitis la saman lernejon. Mi parolas pri lia avo.
Eble, krimo okazis inter la arboj, kaj li serĉas spurojn.
Ne, ne, ne estas afero de krimo. Efektive, li serĉas ŝilingon.
Serĉas ŝilingon? Kiel vi scias?
Mi scias, ĉar mi trovis ĝin.
Ah, gratulon!
Traduisons maintenant ce sketch.
Crimo ne okazis.
Le crime n'a pas eu lieu. Donc la scène.
Yes, la scène. La sceno estas interviuo sur benco en parco.
Donc la scène, il s'agit d'une interview sur un banc dans un parc.
Yes, bone. Mi estas raportisto de la matena giornalo.
Je suis journaliste au journal du matin.
Voilà. Alors, rapporto, c'est un rapport. Rapportisto, c'est un professionnel qui fait des rapports. Donc, c'est un journaliste ou c'est un reporter,
voilà.
Finalement.
Mm-hmm. Hein?
Et giornalo, c'est un ciutaga gazetto.
Yes.
C'est-à-dire, gazetto est plus général.
Voilà.
Et ciutaga veut dire tous les chaque jour. Donc, mm-hmm. C'est bien un quotidien.
Mm-hmm.
Donc, je suis reporter du quotidien du matin. De la matena voilà. Giornalo.
Mm-hmm.
Quiom da jaroi vi havas?
Quel âge avez-vous?
Nur okdek naŭ.
Seulement 89?
Bon, seulement, très bien. Post tri monatoj mi havos naŭdek jaroin.
Dans trois mois, j'aurai 90 ans.
Bon. La raportisto scribas.
Donc le journaliste écrit.
Ĉu vi estas la sola okdek jarulo en la vilaĝo?
Êtes-vous le seul octogénaire dans le village?
Yes, très bien. Donc, okdek jarulo, ulo, c'est un individu. Un individu qui estas okdek jara, c'est-à-dire qui a 80 ans.
Ouais.
Yes, mia patro mortis, quiam li estis cent jara.
Oui, mon père est mort. À l'âge de 100 ans.
Voilà, quand il était centenaire ou à l'âge de 100 ans. Kai mia avo mortis, quiam li havis centses jaroin.
Et mon grand-père est mort à l'âge de 106 ans.
Voilà, c'est une famille qui donne de l'espoir, n'est-ce pas? Mi estas nur junulo.
Je ne suis qu'un jeune.
Et oui, par rapport à eux. Kion vi faras dum la tago?
Que faites-vous pendant la journée?
Mi ofte sidas ĉi tie en la parko.
Je suis souvent assis ici dans le parc.
Kaj mi multe marŝas kun mia hundo.
Et je marche beaucoup avec mon chien.
Voilà. Alors, il y a en fait deux verbes marcher, hein. Il y a paŝi,
oui.
Pour marcher
faire
tranquillement,
pas, ouais.
Faire des pas, et marchi qu'on réserve en général à une marche plus rythmée,
voilà.
Plus sportive.
Faire de la main.
Voilà. Donc c'est un marcheur, et c'est
ouais.
Pour ça qu'il...
qu'il a l'air si jeune.
Voilà. Ni ambau amas marchi, quancam li estas nun iom lama.
Tous les deux, nous aimons faire de la marche, nous aimons marcher. Bien qu'il... bien que maintenant, il soit un petit peu paralysé, enfin, c'est pas tout à fait...
Alors, que nous dit le PIV? Je connais ce mot, mais je ne le vois pas souvent. Ah oui.
Lama, boîte bancale.
Yes.
Lami, boîte, claudiquet, clopiné, être boiteux, clocher. Voilà.
Donc,
lama, donc. Bien qu'il boite un peu.
La définition du PIV, du plena illustrita vortaro, de notre dictionnaire de référence, estas malfacile pachanta pro criplezzo de cruro au piedo. Donc, qui marche difficilement à cause d'une cripla, c'est invalide, une invalidité. Il y a un autre mot pour ça. Bon, à cause d'un pied invalide, handicapé, à cause du handicap d'un pied ou d'une jambe, cruro.
Cripla, estropié, voilà. Entrefait, perclus, impotent, difforme, rabougri.
Allez, cripla, c'est donc estropié.
Bien qu'il soit maintenant un peu estropié, bien qu'il, oui, qu'il boite.
Ancau li estas maljuna.
Lui aussi est vieux.
Vi legas, compreneble.
Vous lisez, bien sûr.
Oh, yes, mi legas kun la helpo de oculvitroj.
Oh oui, je lis avec des lunettes.
Mi legas nur sciencajn verkojn.
Je ne lis que des œuvres scientifiques.
Nur sciencajn verkojn.
Que des œuvres scientifiques.
Ĉu vi ne legas krimromanojn?
Vous ne lisez pas des romans policiers?
Voilà, crime, effectivement, c'est un crime. Mais on dit plutôt, nous, romans policiers. Mi ne havas tempon.
Je n'ai pas le temps.
Nia policano, tie, trans la florbedo, inter la arboj, amas crime romanoin.
Notre police, ici, il montre à travers les... Par-dessus. Il montre par-dessus les... plate-bande de fleurs entre les arbres, aime les romans policiers.
Voilà, alors Polizano, c'est un membre de la police, hein. Donc c'est notre policier.
Ah, c'est seulement policier, ah, oui, notre oui. policier,
donc,
d'accord.
Donc Polizzo, police, Polizano, c'est un membre de la police, donc un policier.
Ah oui, donc notre
policier. Et donc ce policier, il le montre, hein, dans le texte, nous avons li montras lin. Kion li faras tie?
Que fait-il là?
Li serĉas longan tempon.
Il cherche longtemps.
Oui, oui, longtemps, longan tempon. Et c'est l'accusatif qui remplace le dum pendant longtemps, une longue durée. Li estas nova policano.
C'est un nouveau policier.
Mi konis lian avon.
Je connais son grand-père.
Je
connaissais son grand-père.
Li mortis en compare iuna agio.
Il est mort à un âge plutôt jeune.
Oui, ou en comparaison. Peut-être.
En comparaison, mais avec qui?
Oui, par rapport au reste de la famille qui est mort centenaire.
Par rapport à lui?
Oui, oui.
À celui qui parle, qui va avoir 90 ans.
Sans doute, voilà. C'est
il est comparé... mort, oui, en comparaison, je suppose avec moi, il est mort jeune.
Li havis nur sepdek tri, kiam li forpasis.
Il n'avait que 73 ans lorsqu'il mourut.
Voilà, forpasi, donc synonyme de morti, décédé, mourir. Li ancorau rigardas.
Il regarde de nouveau.
Li tri diligente serĉas.
Il cherche avec application.
Oui, avec application. Oui. Li estas tre diligenta.
Il est très appliqué.
Ni visitis la saman lernejon.
On allait à la même école.
Mi parolas pri lia avo.
Je parle ici de son grand-père.
Yes.
C'est avec son grand-père qu'il est allé à l'école.
Eble crimo occasis inter la arboi, cae li serĉas spuroin.
Sans doute le crime a eu lieu entre les arbres et il cherche des traces.
Très bien. Ne estas afero de crimo.
Non, ce n'est pas une affaire de crime.
Effective, li serĉas shilingon.
En fait, il cherche...
Un shilling.
Un shilling.
Oui, une pièce de monnaie, sans doute. Serĉas shilingon?
Il cherche un shilling.
Qui elvis scias?
Comment vous le savez?
Mi scias, ĉar mi trovis ĝin.
Je le sais car Je l'ai, car moi, c'est moi qui l'ai trouvé.
Moi, je
car
l'ai
je
trouvé.
L'ai trouvé.
Bon,
ouais,
mais
je
bon.
Le sais car je l'ai trouvé.
Très bien.
Pour finir, Jacques et Hans vous proposent une deuxième version de ce sketch.
La crimo ne occasis. Hans, vi estas journalisto, kai Jacques, vi estas junulo, maljunulo.
Yes. Mi estas reportisto de la matena giornalo. Kiom da jaroj vi havas?
Nur 89. Post tri monatoj mi havos 90 jarojn.
Ĉu vi estas la sola 80-jarulo en la vilaĝo?
Jes, mia patro mortis kiam li estis 100-jara, kaj mia avo mortis kiam li havis 106 jarojn. Mi estas nur junulo.
Kion vi faras dum la tago?
Mi ofte sidas ĉi tie en la parko, kaj mi multe marŝas kun mia hundo. Ni ambaŭ amas marŝi, kvankam li estas nun iom lama. Ankaŭ li estas maljuna.
Vi legas, kompreneble.
Oh, jes, mi legas kun la helpo de okulvitroj. Mi legas nur sciencajn verkojn.
Nur sciencajn verkojn? Ĉu vi ne legas krimromanojn?
Mi ne havas tempon. Nia policano tie, trans la florbedo, inter la arboj, amas krimromanojn.
Kion li faras tie? Li serĉas longan tempon.
Li estas nova policano. Mi konis lian avon. Li mortis en kompare juna aĝo. Li havis nur 73, kiam li forpasis.
Li tre diligente serĉas.
Li estas tre diligenta. Ni vizitis la saman lernejon. Mi parolas pri lia avo.
Eble krimo okazis inter la arboj kaj li serĉas spurojn.
Ne estas fero de krimo. Efektive li serĉas ŝilingon.
Serĉas ŝilingon? Kiel vi scias?
Mi scias, ĉar mi trovis ĝin.
Merci Jacques et Hans. C'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Ĝis baldaŭ.
Ĝis baldaŭ.
Ĝis baldaŭ.
Ĝis baldaŭ.
Ĝis baldaŭ.
Ĝis baldaŭ.
Ĝis baldaŭ.